Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Dans ce nouveau podcast de Pourquoi tu cries, rencontre avec Abdelatif Chaouit, auteur de Chaleur, Patio de mémoire, et Salah Oudahar, auteur de Les témoins du temps et autres traces, où il est question de langue et de mémoire. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté cette rencontre sonore. Dans un premier temps, j'aurais souhaité que chacun de vous se présente avec un petit peu quelques mots sur son parcours pour que les auditeurs et les auditrices puissent vous connaître.
Bonjour, alors je m'appelle Abdelatif Chaouit. Moi je suis marocain, je suis né au Maroc, je suis un immigré, je suis arrivé ici à l'âge de 20 ans. Après, j'ai fait des études en psychologie clinique qui se sont soldées par un doctorat. Et puis après, j'ai surtout travaillé dans le secteur associatif, on va dire, d'une façon très très large, essentiellement sur les questions, effectivement, de l'immigration, de l'interculturalité. Par ailleurs, je suis, j'allais dire, un petit peu, entre guillemets, écrivain. Donc j'ai écrit quelques livres de facture littéraire, mais en même temps, en fait, je suis dans une double façon d'écrire, une double écriture, un double style, quoi, avec des essais, notamment sur l'objet sur lequel je travaille, l'immigration, l'interculturalité, etc. Et puis là, on se retrouve à Marseille, chez nos hôtes et nos amis de l'association ACT, parce qu'effectivement, je fais partie du réseau, d'un des réseaux Histoire-Mémoire de l'immigration, qui est le réseau Trace, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai contribué à fonder, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, à un moment où cette question un peu de l'histoire et de la mémoire de l'immigration s'est posée grosso modo à partir des années 80, fin des années 80 et dans les années 90 essentiellement.
C'est Salah Oudahar, n'est-ce pas ? Donc, je suis poète, metteur en scène, comédien, diplômé des sciences politiques. Je suis originaire d'une région qui s'appelle les Iflis-Saint-Exir, en Kabylie maritime, donc en Algérie. J'ai enseigné à l'université de Tizi Ouzou, en Kabylie, jusqu'à fin 1992, date à laquelle j'ai quitté l'Algérie pour m'établir à Strasbourg, où je développe depuis un travail au croisement de la recherche, de la création artistique, de l'action culturelle, sur les questions de mémoire et d'histoire. J'ai fondé notamment le collectif de théâtre Vibration Algérienne 1995-2000, un laboratoire de création, de diffusion, de débat et d'échange, spectacle, mise en scène, lecture, rencontre sur l'histoire et les mémoires algériennes. J'ai fondé l'atelier de théâtre Mémoire et citoyenneté 1997-2003 sur les thématiques des mémoires coloniales, postcoloniales et de l'immigration. J'ai collaboré avec le Centre européen de la jeune création, Théâtre des Lisières, 1995-2003. Alors évidemment, j'ai organisé de nombreux événements culturels, des séminaires et des colloques, créé et monté des spectacles dont Dialogue d'Alsace et d'Algérie, qui est un spectacle qui a exploré les relations algéro-alsaciennes de 1830 à 2000. J'ai mis aussi en scène une pièce de théâtre, Marianne et le Marabout, de Slimane Benaïssa, qui abordait la figure du père dans l'immigration. J'ai fait aussi de nombreux spectacles de montage de textes d'auteurs algériens, Écrire dans la guerre, Katab Yassine, élu 1945, Mahtoub Lounès et les siens, Par de la lumière, etc., etc. Donc je suis membre fondateur et directeur artistique du Festival Strasbourg Méditerranée, qui est dans le réseau, effectivement, Mémoire Histoire. Je suis le président aussi d'une compagnie Mémoire Vive. Je viens de publier effectivement, les témoins de temps et autres traces, qui est un recueil de textes, de poèmes et de photographies, aux éditions à plus d'un titre.
Alors c'est vrai que tous les deux, vous travaillez sur ces questions de mémoire et c'est des questions qui sont un peu au cœur aussi de ce qu'on traite à travers ces podcasts de Pourquoi tu cries. J'avais aussi envie d'interroger avec vous aujourd'hui parce que tous les deux, vous maniez les mots et vous questionnez la langue. À quel point, en fait, dans ces enjeux de mémoire, c'est un enjeu de questionner les langues et la manière, en fait, dont on utilise les mots, la manière dont on les transmet aussi, ces langues, ou qu'on ne les transmet pas aussi, parfois, quand on parle de mémoire. Est-ce que ça fait partie des choses que vous interrogez tous les deux dans vos ouvrages respectifs ?
Ah oui, absolument. Non seulement ça en fait partie, mais c'est central. En tout cas, pour moi, c'est véritablement central. Parce que, d'abord, il n'y a pas de mémoire sans mots, sans langue. Et inversement, hein, il n'y a pas de langue sans mémoire, je dirais. Et puis ensuite, parce que probablement, mais y compris avec Salah, on est issu d'une histoire... d'une sorte un petit peu de plurilinguisme qui ne peut pas ne pas interroger à la fois d'un point de vue historique, d'un point de vue politique, d'un point de vue idéologique, etc., qui m'a forgé dans le souci de trouver le mot le plus juste. Et ce n'est pas toujours évident. Hein. Parce que dans ma tête, je suis quelqu'un qui est dans un processus de traduction tout le temps. Quelqu'un qui est issu d'une langue et qui est très très vite passé à une autre langue, parce que mes parents sont berbérophones du sud et parlent tachelhit, sauf qu'ils n'ont pas véritablement parlé cette langue-là à leurs enfants, parce que nous, on est nés dans la ville, ils ont parlé ce qu'on appelle la darija, quoi, de la ville, qui est, moi j'appelle ça une sorte de créole, en fait, qui est composé à la fois syntaxiquement et grammaticalement de plusieurs apports, en fait, historiquement, des langues, etc. Donc à la fois le berbère, à la fois donc, la darija qui est parlée, qui est la langue vernaculaire, quoi, localement, à la fois, et à travers l'école, la langue arabe, au sens classique du terme, et en même temps, pour ma génération en tout cas, on a appris à la fois l'arabe et le français. Depuis l'école primaire. Quand on a grandi dans un univers un petit peu comme ça, on ne peut pas ne pas être à la fois interrogé, préoccupé par cette question un petit peu de la langue. D'une certaine façon, c'est un peu qui suis-je là-dedans, quoi. en fin de compte. Donc c'est... oui, c'est, cette question de la langue, elle est, à mon avis, véritablement au cœur de tout le reste, quoi. On peut la soulever de 36 000 manières, à travers l'histoire, à travers beaucoup de choses, beaucoup d'autres dimensions, mais on est le même, elle est au cœur de tout le reste. Dans cette ville, tout se disait et de longtemps en plusieurs langues, ou dans une même la concasson, les concassons. Aucune seule n'arrivait à en faire le tour, comme si ces lieux étant, ainsi que ses rêves, étaient espacés de l'intérieur d'eux-mêmes. Et il en allait de même de ses habitants, aucun sillage, dit langue, idiome ou dialecte, ne pouvait seul en contenir les mémoires. Il faut expliquer que le livre il est composé en fait d'une manière qui peut paraître un petit peu déroutante parce qu'il y a un chapitre qui est écrit normalement avec des paragraphes, des retours à la ligne, etc., qui raconte un petit peu des choses. Et puis le chapitre suivant, c'est des fragments. C'est des fragments de méditation. Tout le livre est composé comme ça, chapitre par chapitre, mais ce sont des fragments et des textes qui se répandent en fait dans le fond. Je suis dans cette imbrication qui m'a construite, bien évidemment, qui a construit ce que je suis et ce que je suis en tant que constitué par ces multiples facettes de toutes ces langues-là, passant assez souvent de l'une à l'autre, dans une espèce un petit peu de traduction qui est devenue très spontanée chez nous, quoi. Les gens qui vivent un petit peu ce genre d'expérience linguistique, ils deviennent une espèce de traducteur à l'intérieur d'eux-mêmes. Et en même temps, ça ouvre des perspectives extraordinaires, et notamment sur le plan poétique, parce que ce que dit un mot dans une langue, même traduit, il dit d'autres nuances. Et il révèle aussi les angles morts dans une autre langue, et ainsi de suite. Et donc cette question-là, elle est pour moi l'une des questions vraiment les plus centrales et les plus importantes dans, alors on peut appeler ça comme on veut, quoi, la question identitaire, la question etc. Peu importe, ça c'est le langage commun, je dirais, quoi, pour désigner, qui est quand même important, mais pour désigner un petit peu, essayer de mettre des mots sur un certain nombre d'objets qui sont des objets évanescents, des dimensions du vécu à la fois extrêmement importantes, et en même temps, on ne peut les comprendre que si on les resitue à la fois historiquement, à la fois au niveau d'une expérience personnelle et donc de la mémoire personnelle en tant que telle, et donc à la fois dans leur dimension à la fois affective, à la fois objective. Pour moi, c'est un petit peu cette dimension-là qui m'intéresse et qui m'interroge et autour de laquelle je tourne beaucoup dans une espèce un peu de... En fin de compte, en tout cas dans mes écrits un peu de facture littéraire, dans une espèce de méditation continue qui reprend à chaque fois.
On a l'impression aussi avec les langues qu'il y a celles qu'on nous oblige à oublier, il y a celles qu'on est obligé de s'approprier, et puis il y a celles aussi où ça rejoint aussi tout ce que vous venez de dire, mais où c'est un marqueur de résistance aussi de dire ben non, je vais continuer celle-là à l'utiliser et je vais la transmettre même, parce que j'ai l'impression que dans ces questions de transmission de mémoire aussi c'est un marqueur important. Est-ce que oui, la langue est résistante aussi à ce niveau-là?
Ah oui, la langue est résistant. Exemple de la langue amazir, ce qu'on appelle le berbère, ou en Algérie le kabyle, c'est l'exemple même, d'une certaine façon, de la résistance, quoi. Une langue qui se perd dans la nuit des temps, quoi, et qui a su résister d'une manière extraordinaire. La question de sa transmission, c'est pas toujours quelque chose d'évident et de facile C'est évident quand on est dans un environnement qui le permet et qui fait que la langue, effectivement, se fait naturellement, d'une certaine façon, comme on dit les langues naturelles, les langues maternelles, naturellement se transmet d'une génération à une autre, ce qui a été le cas du berbère dans un certain nombre de poches de résistance, justement. C'est pas pour rien qu'il a résisté essentiellement dans les montagnes au Maghreb et fondamentalement dans le désert, chez les berbères du désert, etc. C'est la résistance, et en même temps, la transmission aujourd'hui me semble une vraie question casse-tête, une question très très importante, d'abord parce que la transmission se fait institutionnellement, aujourd'hui, beaucoup plus que tout simplement par le fait que les uns parlent des langues, etc. Et quand on prend l'exemple du Maghreb, mais on peut le prendre y compris par rapport aux gens issus de l'immigration ici en France, quoi. La langue première qui parle, c'est la langue qui est institutionnellement la langue officielle et que tout le monde doit parler. Bon, c'est très bien. Moi, je n'ai rien contre ça, c'est pas le problème. Sauf que on ne fait pas assez d'efforts pour transmettre les autres langues. Et parfois, y compris nous-mêmes. Comme je vous disais, mes parents, c'est des berbérophones, quand ils sont descendus en ville, ils ont parlé à leurs enfants exactement comme font les immigrés ici. Ils viennent ici, là, leur souci, c'est que leurs enfants puissent bien parler le français, pour qu'ils puissent, etc. Quelle que soit d'ailleurs l'immigration, ce souci est assez courant, quoi. Sans penser que, y compris pour apprendre une autre langue, la langue dans laquelle on est né, elle est essentielle et fondamentale, y compris pour préparer la transmission d'une autre langue, etc., etc. Et sans penser que, n'importe comment, les langues, c'est un tel trésor. Chaque langue, c'est le monde. Chaque langue, il dit le monde à sa manière, et c'est un tel trésor. Et plus on peut apprendre, plus un gamin peut apprendre de langues, plus mieux il est. Je veux dire, c'est une souplesse psychique. Qui est extraordinaire et qui prépare justement à moi j'appelle ça l'extension de la topographie mentale, à condition bien évidemment que ça soit bien fait et que ça soit légitimé, que toutes les langues soient légitimées au même niveau. Les langues sont des langues et sont faites exactement de la même manière, de toute façon. Il n'y a pas des langues et des dialectes et des machins, etc. etc. Ça, c'est de l'institutionnel qui catégorise, c'est de la catégorisation et derrière laquelle il y a la question du pouvoir. Une langue officielle qui doit dominer toutes les autres langues, etc. etc. etc.
Cette lumière abyssale, dans sa pureté incandescente, les cimes du silence. L'été, le soleil écrase la pierre, interstice inviolé par où souffle une brise, et les fleurs tes lèvres, et les fleurs ta bouche. Et les fleurs tes lèvres, et les fleurs ta bouche. Voler, paupières clos, bruissement, chuchotement, entrelacement dans les secrets d'alcôve. Le désir soulève les vagues, gonfle tes voiles, amarre les rivages de ton ventre. Le désir en son royaume, sa puissance outre-soif dans la conscience aiguë de son dû. Le bleu azur de ta respiration, ton haleine, ton souffle, puis de nouveau la guerre, l'exil, le retour des vents, les débris éparpillés de la langue sur le seuil des imaginaires sans demeure. Les témoins du temps et autres traces, c'est un ensemble de textes, poèmes, avec des photographies aussi. Hein, donc, et les photographies dans cet ouvrage-là ne sont pas conçues comme de simples illustrations, elles sont constitutives même du corps du texte. C'est-à-dire qu'il y a aussi, à travers la photographie, aussi, il y a ce poème visuel. Donc voilà, donc ça c'est un peu cette démarche-là. Donc derrière ça, il y a aussi toute une interrogation du rapport de l'image avec les mots. Cet ouvrage prend sa source dans la mémoire de la guerre d'Algérie que j'ai vécue, que j'ai connue enfant dans mon village, donc des Efflis-Saint-Exir, en Kabylie-Maritime, puisque la guerre d'Algérie était déclenchée en 1954, je suis né en 1951, et à l'indépendance, en 1962, j'avais 11 ans. 60 ans après, je reviens sur les traces de cette enfance, à travers diverses empreintes, réelles et imaginaires, physiques et symboliques. J'évoque tour à tour le passé lointain, la présence phénicienne, romaine, et récent, la guerre et l'après-guerre d'indépendance. Donc, en revisitant ces lieux livrés à l'érosion du temps, à l'oubli des pouvoirs et des hommes, je m'adonne à une forme de déambulation, de recomposition mémorielle, au fil d'un récit, d'une narration intime. Je tente de tisser un récit où s'enchevêtrent souvenirs historiques, rémémorations personnelles et perceptions singulières. Donc, les témoins du temps et autres traces est traversé par une interrogation essentielle, fondamentale, sur notre rapport à la mémoire, à l'histoire, au temps, au monde, par la recherche d'un langage, d'une poétique des ruines. C'est une volonté de mobiliser toutes les ressources, des langages, de tous les langages, justement, pour ouvrir au maximum disons cette quête, cette traversée, cette interrogation à travers le temps de l'histoire. Et là, évidemment, il y a la langue, il y a les mots. Et comme disait Abdelatif, moi aussi, j'ai connu une scolarité. La langue française, ce n'est pas ma langue maternelle. C'est le kabyle, c'est le bébé, une variante du berbère, ou ce qu'on appelle tamazir. Et c'est dans cette langue-là que j'ai été conçu, construit ou déconstruit. Et que le français, je l'ai découvert très tardivement, à l'âge de 12 ans. Cette langue, pour moi, est d'une violence extraordinaire. Il y a cette violence de la langue qui est un peu une espèce de corps étranger que je venais à peine, que j'avais, avec mon retard scolaire et tout ça, etc., j'étais confronté à quelque chose de terrible, qu'il fallait, c'est un combat de corps à corps, de tous les jours, pour pouvoir m'y accrocher, pour pouvoir y pénétrer, rentrer dans cette langue, sans pourtant m'y perdre, cette lutte fondamentale, et que j'ai commencé un peu à essayer d'apprendre cette langue, à réfléchir dans cette langue, à penser dans cette langue. C'était un long processus douloureux. Cette langue aussi se superpose à une autre langue, la langue du dedans, la langue de l'intime, et que même dans sa structuration, c'est ce que rejoint un peu ce que disait le grand poète écrivain Katab Yassine, quand il parlant de notamment de son œuvre et notamment de son roman fondamental Najma, et il disait qu'à un moment donné, il a ressenti le besoin d'écrire dans cette langue, qui est d'une langue étrangère, la langue du dominant, hein, et qui lui étant dans un statut de dominé, écrire dans cette langue, comment écrire dans cette langue, la maîtriser, se l'approprier, l'écrire de telle manière que le français s'y perdrait dans cette langue et ne comprendrait pas cette langue. Ça veut dire que cette langue-là aussi, Steve, ce n'est pas juste un travail d'écriture mécanique d'une langue, nous l'investissons aussi de notre manière, nous l'habitons, nous tentons de l'habiter à notre manière, à tel moyen de la transformer, de la transfigurer pour en faire d'une langue de la domination, de langue, etc., d'une langue qu'on serait appropriée, d'une langue de libération. Je fais aussi ce parallèle entre mon père, qui était lui un tailleur de pierre, c'est pour ça aussi, que lui, effectivement, quand il travaillait, on sentait travailler les outils sur la pierre, on sentait presque une certaine langue, presque une langue, quelque chose qui raconte quelque chose, etc. Et que moi, la pierre, c'est la langue, pour moi, c'est la pierre. C'est-à-dire que moi, le poème, c'est ça, c'est la pierre, c'est la langue sur laquelle il y a ce travail de tous les jours, d'une matière brute, ou la brutalité du monde, ou la brutalité de meurtre, avec l'écriture, c'est quelque chose qu'on essaie de transformer pour justement créer et créer l'objet poétique et l'objet, etc.
En résonance avec mon ami Salah, qui me semble très très important sur ce qu'il vient de dire, ce que j'appelle moi dans un autre écrit le travail de la langue, un peu comme les psychanalystes parlent du travail du rêve, du travail du deuil, il y a un travail, c'est-à-dire un travail qui transforme. Le travail, c'est une action qui transforme quelque chose. Et le travail poétique sur la langue, évidemment, quand il s'agit de la langue, d'une domination réelle et concrète dans l'histoire, c'est justement de désaliéner, presque à la limite de la faire sortir de son cocon dominant et d'en faire un vrai outil de rapport au monde, quoi, quel qu'il soit, encore une fois, quelle que soit la langue. Ça me semble fondamental dans la question un petit peu de la transformation des imaginaires. Et ça, je crois que des pays comme les nôtres qui ont connu la colonisation, qui ont connu plusieurs colonisations, c'est une des dimensions essentielles, effectivement, j'allais dire, un des apports essentiels qu'ils apportent à la langue française. C'est de la désaliéner d'elle-même. Enfin, en tout cas, de ce qui en a fait un instrument d'aliénation. C'est surtout ça, parce que la langue en tant que telle n'est pas ni aliénante, ni désaliénante, si ce n'est dans le sens que toute langue est un assujettissement, il nous assujettit parce qu'il nous construit. Mais ça, c'est le propre de la langue en tant que telle, quoi. Une désaliénation dans le sens, cette fois-ci, effectivement, historique, idéologique, économique, politique, etc. Ça, je crois que c'est une des dimensions que tous les écrivains, poètes, pas seulement du Maghreb d'ailleurs, mais d'autres pays qui ont été dominés, quand ils ont utilisé la langue, effectivement, de la domination, ils l'ont utilisée de telle manière qu'on pourrait dire qu'ils l'ont utilisée pour la sauver.
J'ai quand même pas envie de vous quitter avant de vous poser la question rituelle de ce podcast, mais qui rejoint quand même beaucoup de ce qu'on s'est dit dans cette discussion. Et pourquoi tu cries ? Pourquoi, on pourrait dire, on commençait à jouer avec tout à l'heure, pourquoi tu écris ? Mais finalement, crier, écrire, il y a aussi cette idée de lutte et de combat, quoi.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on peut jouer sur le fait de crier, pourquoi on crie, on peut dire pourquoi et écrit. D'ailleurs, dans l'un de mes poèmes, je parlais justement de la pierre. Je disais que les pierres ne sont pas muettes pour ceux qui parlent la langue du silence, qui parlent la langue du silence. Donc le cri, c'est-à-dire que aussi c'est un cri, des cris criés ou des cris silencieux, c'est des cris de révolte, des cris. De souffrance, des cris de revendication. Donc c'est la voix aussi, la voix, c'est la voix et voilà. Donc je pense que quand on y crie, on crie aussi quelque part. Voilà. Il faut entendre les cris à travers les cris.
Je crie pour ne pas oublier, dans un peu dans la dimension de la mémoire. Je crie pour ne pas étouffer. Dans une histoire qui est effectivement pas simple, pas évidente, etc. Je crie pour ne pas subir tout simplement un monde qui devient de plus en plus agressif, de plus en plus violent, de plus en plus, enfin à mon sens en tout cas, hein, d'une violence soft, bien évidemment, mais d'une violence quand même, quoi, à travers... Je crie pour rester dans quelque chose de l'ordre. Il me semble que le cri, c'est quelque chose qui peut être aussi symbolique, et pas tout simplement... physique. Donc pour essayer effectivement de rester dans une expression symbolique et pas tout simplement obéir à un certain nombre de langages, de codes, de ceci, de cela, etc. qui nous empêchent justement de peut-être de plus en plus d'ailleurs. De véritablement crier. Et je ne sais pas si on crie assez.
C'est une bonne question. Merci à tous les deux, en tout cas, pour cette discussion.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Cherbonnier.